Maintenant, les Juifs qui vivent en France en ce moment, vous ne croyez pas qu'ils ont raison d'avoir peur? Alors, moi je crois que tout bon, bah, il rêve. Sa place l'a mis à un tel point qu'il est, à mon avis, en dehors de la réalité, qu'il dénie la réalité. Vous pensez que les Juifs sont, ou partent en Palestine, ou sont obligés de se cacher? Vous parliez de l'affaire Dreyfus, et en plein dedans. Eh ben.
Non, mais Toubon, il fait des constats, mais il ne donne aucune solution. Hein. Tu vois, c'est ça aussi, hein, il fait des constats. Bon,
oui,
pratiquement, on peut être d'accord avec les constats qu'il fait, mais bon.
Alors, c'était en 2022.
Après, hein. comment arriver à quelque chose de mieux, je ne vois pas trop.
C'est 2022, il s'est passé beaucoup de choses en
2022. Oui, mais vrai, oui. Ah, ben, il aurait pu en rajouter, parce que, effectivement.
Oui, quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit l'interdépendance. Il parle d'interdépendance. Et alors j'ai regardé un peu interdépendance sur Google, hein, et j'ai trouvé qu'il y avait un collège international, un collégium international. Alors ce collégium international, il est partant pour une charte d'interdépendance. Il y a la liste, ils sont une cinquantaine, et ils sont une cinquantaine, et ben, il y a des anciens prix Nobel, enfin il y a des prix Nobel, il y a des chefs d'État, ils essayent de mettre en place cette charte d'indépendance. Alors il donne trois principes d'action. Alors le premier, c'est les humains ne sont pas les propriétaires de la nature, mais les composantes de l'écosystème. Le deuxième, c'est l'hospitalité universelle. Et alors le troisième, il y a des gens qui travaillent, enfin, qui, c'est pas simplement une idée en l'air, il y a des. Et ici, ils interviennent auprès de l'ONU, ils essayent de faire en sorte que, bon, voilà, ce que j'ai vu, bon, ça m'a paru intéressant, que ça soit concrétisé, qu'il y ait des gens qui y travaillent et qui sont nombreux à travailler là-dessus, et des gens qui sont respectés, enfin, qui ont eu un.
Je peux dire un mot,
hein. Oui.
Moi, il me semble qu'il est quand même plus satisfaisant de se trouver dans un pays qui attire que dans un pays qui repousse. Il y a un certain nombre de dizaines d'années, on construisait des murs, mais c'était pas pour empêcher que les gens entrent, c'était pour empêcher que les gens sortent de leur pays. Oui, c'est peut-être un mirage de penser qu'en Europe et en France en particulier, ça va si bien que ceux qui vont arriver, ça va être l'Eldorado. Bon, il doit certainement y avoir de cruelles déceptions. Mais enfin, on représente encore un pouvoir d'imagination et d'attirance.
Ça, c'est vrai.
Bon, oui. Alors, quand on dit c'est le déclin de l'Occident, ben, certains voudraient bien arriver en Occident quand même. Ça les attire.
Ils vivent avec
nos critères occidentaux. Bon, peut-être pas avec nos idées, ça c'est à débattre. Bon, mais quand on vit dans un pays pendant un certain nombre de dizaines d'années, il me semble que, sauf phénomène de ghettoisation où on vit tous ensemble et où on perpétue les idées de son pays d'origine et d'un passé qui est largement imaginaire aussi, il me semble qu'on finit quand même peut-être moins facilement qu'avant, mais ça doit quand même arriver qu'on finit par une certaine forme d'intégration.
L'intégration. Bon.
Moi, je n'aurais pas très envie de vivre comme un Irlandais du 19e siècle qui n'a qu'une envie, c'est de quitter chez soi parce qu'il n'y a plus de patates, que les patates pourrissent, et puis qu'on part sur les bateaux aux États-Unis en sachant pas ce qu'on va trouver et en étant accueilli peut-être pas forcément de la meilleure manière non plus. Enfin, quoi qu'avec le melting pot, et puis avec les grands espaces, avec la course vers l'ouest, pour voir le Far West, bon, les données étaient un petit peu différentes. Bon, donc, Pour résumer, j'aime mieux être dans un pays qui attire des illusions que dans un pays où on n'a vraiment pas envie d'aller.
Et du coup, je suis d'accord avec toi. Vers Mars.
Chaque personne française doit être accueillante et fraternelle. Oui. Et, parce que on a tendance, nous, bon, on fait partie de la classe qui réfléchit peut-être un peu, je ne sais pas, ou privilégiée, je pense, pour beaucoup d'entre nous ici. Et du coup, on oublie que les autres ont le droit de vivre pareil, que c'est leur vie et qu'ils n'ont aussi qu'une seule vie comme nous. Hein. Et du coup, on voudrait perpétuer ça.
J'ai un arrière-grand-père bon, qui venait pour de l'étranger, il venait d'Auvergne, mais à l'aune. De l'époque, à l'aune de l'époque, c'était un petit peu pareil.
Bon,
il est parti sur les routes comme chiffonnier, parce qu'il devait crever de faim dans sa famille. Bon, et puis, il est arrivé dans une société qui était celle de la Troisième République débutante, où il a quand même fait son trou, hein, et où il a fini par s'installer. Et puis, il était chiffonnier, mais son fils était pharmacien. Bon, donc... À mon avis, ce sont des phénomènes et des mécanismes qui ne se reproduisent pas exactement dans les mêmes conditions qu'il y a 100 ans, 150 ans. Mais ça reste possible.
Ça reste possible. Et ça n'empêche pas cette qualité d'accueil et de fraternité et de simplement sourire, être accueillant. Et ça, c'est individuel.
C'est individuel. Oui, mais regardez, vous voyez qu'ils font du sourire à ceux qui y rentrent.
Non.
Non, parce que.
Non, mais ils n'ont plus rien à manger, ni non, même à boire. À Mayotte, ils sont obligés d'acheter de l'eau.
Oui, mais à Mayotte, ils se marchent dessus parce que l'île est trop petite pour accueillir tous ces gens qui viennent.
Vous savez combien il va y avoir d'Africains?
C'est ce que disent
2 milliards.
Chut.
Je sais pas. Combien vous allez en recueillir en France? C'est 2 milliards qu'il va y avoir en Afrique. Où ils vont aller?
Pas tous à Mayotte.
Un tiers en Afrique. Il y a l'illusion que la France, c'est quand même un tiers. Donc ils arrivent de l'île. Alors qu'en fait, la France n'a jamais été une terre d'immigration, comme dit tout bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce que jusqu'au 19e siècle, il y a des étrangers qui étaient accueillis, mais en fait, il fallait qu'ils soient riches. On examinait d'ailleurs ce qu'ils avaient comme fortune. Hein, puis généralement, c'était des gens, des savants. Il n'y a qu'à partir du 19e siècle où il y a eu une influence.
Les Polonais non plus.
Parce qu'il y avait au 19e siècle l'industrialisation.
La révolution industrielle.
Et puis voilà, donc, mais la France n'a jamais été. C'est une illusion, encore une fois. C'est pas une terre d'immigration au sens où elle s'est construite avec des émigrés comme par exemple les États-Unis. C'est pas du tout pareil.
Moi je pars de ce que tu viens de dire là par rapport à ça. En fait, que toute personne d'abord a un rêve d'un mieux. Si je regarde ma femme, elle a fait sa généalogie. Les membres de sa famille qui ont quitté Marnay, si vous connaissez, au bord de Saône, parce que ça inondait, pour aller à Saint-Ambreuil. Où c'était plus haut, et ils pouvaient installer leur ferme en 1600, en 1700. Donc ça, il y a toujours, quand même, on a toujours envie d'un rêve, d'un mieux. Moi, je regarde aussi des fois, vous regardez peut-être En Terre Inconnue, quand vous écoutez les parents des ethnies où ils vont là, jusqu'au fin fond du monde, vous avez toujours les parents qui rêvent que leurs enfants, ils vont apprendre un peu plus que ce qu'ils ont appris eux. Moi, ça me pas toujours. Ils sont perdus. Les enfants n'ont jamais fait d'études, rien. Et les parents rêvent quand même que peut-être il y aurait un petit bout d'études qui leur permettra peut-être de... Alors, avec l'idée qu'ils reviendront peut-être au pays. Et ça, je pense que... Et quand une famille... Enfin, pour avoir rencontré, moi, des jeunes en Afrique en particulier, et même au Bangladesh, mais ils rêvent quand même d'un plus, quand même, hein. En plus, comme nous, on a rêvé. Les gens du Pays Basque sont tous partis. Il y a un groupe, le Pays Basque est plus important maintenant aux États-Unis qu'en France, en population. Ils sont tous partis, à un moment donné, ils crevaient de faim.
Ils sont même revenus.
Pour faire des belles villas.
Donc, il y a bien des choses par rapport à la notion d'immigration, à la notion là, du rêve qu'on a au départ et qui fait qu'on bouge. et qu'en effet, pour bouger. À partir de là, après, effectivement, c'est de la responsabilité de chaque État de voir comment il peut gérer ces flux-là. Et c'est notre responsabilité aussi de dire on est d'accord avec telle façon ou telle façon d'immigrer. Oui.
Moi, je suis même surprise qu'il n'y en ait pas beaucoup, beaucoup plus des immigrés.
Oh, mais oh.
Beaucoup, beaucoup plus. Non, mais quand on voit...
Là, tu rêves.
J'étais dans le sud de la France, on a vu une exposition de photos sur l'Afrique et l'Afghanistan, notamment. C'est épouvantable ce qu'ils vivent. Je me disais, mais nous, on est sur un îlot de...
Dans la jungle de Calais, c'est pas terrible.
C'est bien ordonné. On a des lois, d'accord. On a de la police, d'accord. Des mesures sécuritaires, d'accord. Mais on est quand même relativement tranquille. Quand on voit, par exemple, aussi qu'en Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit d'aller à l'école et des choses comme ça. Mais c'est ahurissant. On est sur un îlot. Enfin, un îlot...
Les colonies, elle augmente.
Vous avez vu la colonisation en Afghanistan ? Tout le monde est parti. Vous avez vu comment les Américains sont partis ?
Je voulais juste faire une petite remarque par rapport à tout ce qu'on dit. Il y a, dans beaucoup de sujets, il y a l'avoir et l'être. Alors, c'est sûr qu'il faut un minimum d'avoir, mais défendre l'être. Et dans nos rapports, c'est l'être. On peut avoir l'intelligence, c'est pas pour ça qu'on est intelligent. On peut avoir la générosité, c'est pas pour ça qu'on est généreux. Ce sont deux choses totalement différentes. Et il faut s'en méfier.
L'intelligence, ça veut dire quoi ?
L'intelligence du cœur, c'est important.
C'est être intelligent, c'est pas nécessairement savoir compter jusqu'à 300.
Hein ? Si je me permets une remarque, j'ai le droit. Oui. Je m'écarte un petit peu du sujet parce qu'on parle surtout des migrants et des étrangers, alors que nos droits à nous, c'est-à-dire.
Oui, exactement.
J'ai fait des manifs.
Je suis d'accord avec vous. Et les prisons.
Pas longtemps, des manifs pour les retraites, pour l'immigration et tout ça. Et j'ai bien vu que là, on perdait ses droits.
Ah oui,
oui. Chaque fois. D'accord. Donc là, il faut qu'on...
Et les gens dans les prisons.
Je dis pas rien, j'ai plus le droit.
Le modérateur sert à recadrer le débat.
Mais on s'écarte du sujet. Pour moi, il n'y a pas que nous.
D'accord,
on va parler de l'immigration. C'est un détail. Par rapport à l'évolution du droit et à chaque fois des pénalités. Et heureusement que le Conseil constitutionnel est là. Qui se comporte pour vérifier par rapport à la Constitution. On est bien d'accord. Ils ne sont pas là pour vous juger autrement que de se ramener dans le cadre. Et heureusement qu'ils ont été là, et d'ailleurs c'est bien cité par tout bon, de temps en temps pour mettre des barrières. Autrement, ça serait encore pire. Donc, et ça ne touche pas les étrangers, ça ne touche pas les clubs, ça touche pas
tout le monde.
Et que, effectivement, que les États, et c'est ce qui est, je veux dire, quel qu'il soit, pour l'instant, il pousse dans ce sens-là, c'est-à-dire à essayer de resserrer les taux autour de soi-disant liberté et en s'appuyant sur justement l'islam, le machin, les migrants. Et là, c'est le fusil, là.
Jean-Paul.
Allez. En même temps, par rapport à les questions de liberté, alors, pour aller à Singapour, où en fait tout est calme. C'est très bien, mais vous êtes filmé 24 heures sur 24. En France, le droit d'urgence... L'état d'urgence. C'était aussi à un moment donné de développer de la sécurité. On est en train de préparer pour les Jeux Olympiques, on va mettre des caméras partout.
Elles vont rester là.
On ne réagit pas, c'est-à-dire que les caméras vont rester après. Elles existent déjà dans les villes, bien sûr. Donc il y a un moment donné... On veut bien notre liberté, mais finalement, on se la fait bouffer d'une certaine façon par des phénomènes comme ça, qui sont c'est génial parce qu'on
s'est pisté partout.
Je rappelle toujours l'intervention du directeur de l'IUT qui disait qu'il avait constaté que combien de fois il était suivi dans sa seule journée pour aller à Paris. Il avait juste à un moment donné, vous voulez acheter des livres avec de l'argent liquide, Il dit là, il n'y a aucune trace. Mais tout le reste, sa banque, sa carte bancaire, son billet de train, tout ça, on pouvait suivre de A à Z tout ce qu'il avait fait dans la journée, sans qu'il avait acheté ses billets.
Et bientôt, ça va être ça, il n'y aura plus de carte de crédit, on paiera avec nos téléphones, même pour un café à un grand, il faudra. Et ça ne sera pas du liquide. Il n'y en aura plus. C'est en train d'arriver, ça va venir.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais on peut rien faire. On peut rien faire.
Non, mais est-ce qu'il faut être... Si, on pourrait être anti-moderne, j'ai dit, entre guillemets.
Oui, ça, ben... C'est Robinson dans le fond du bois.
Tu
hein,
vas manger comment voilà. Si tu peux pas l'être... Manger.
On peut pas l'être jusqu'au bout.
Bon, je demande la parole, parce que j'ai été très sage. Non, mais tout va très bien. Donc, y a des allusions qui ont été faites plusieurs fois à l'importance de l'histoire. Je peux être que d'accord avec ça. Sauf que l'histoire est une propagande. Elle a toujours été une propagande. On a eu des très bonnes conférences de Madame Roux il y a une dizaine d'années. Vous pouvez les réécouter. Et c'était vraiment un cas d'école. Et là, c'était... Donc c'est une propagande, et on peut dire aujourd'hui que c'est peut-être dans l'histoire de ce que j'en sais, le moment où la manipulation de l'histoire, de l'historiographie, on dit, est la moins pire que ce qu'on ait jamais vécu dans les pays occidentaux. Parce qu'il y a des débats, il y a des conflits entre les historiens et tout, et ces débats sont publics. Donc, je suis pas d'accord avec ça. Alors, je vais faire l'historien de service, quand même. On revient le 10 décembre 1948, parce que, voilà. Donc, il y avait 58 pays à l'ONU, à l'époque. 58 pays. Il y a 48 qui ont voté pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y en a 5 qui sont abstenus, dont l'URSS, et 5 qui n'ont pas participé au vote, c'est-à-dire qui ont été boire un café pendant qu'on votait. Hein. Aujourd'hui, on a 203 pays aux États-Unis, aux Nations Unies. Alors, en principe, de ce que j'ai pu lire, les gens qui sont admis, les nouveaux pays qui sont admis, signent. Alors, là, on va parler de la démocratie. Les gens qui signe tous ces papiers-là. Alors là, pour des gars qui n'étaient pas élus, vous pouvez faire toute la liste, ils n'étaient pas élus. Monsieur René Cassin, il n'était pas élu. Il n'était pas élu. Madame Eleanor Roosevelt, elle n'était pas élue. Et c'est elle qui a pondu. Enfin, c'est heureusement qu'elle était là, qu'elle a pu faire ça. Et l'histoire du mot universel, alors ça, c'est peu connu, parce qu'au départ, on voulait appeler ça « Déclaration internationale des droits de l'homme ». Et René Cassin, qui s'est beaucoup dépensé là-dessus, en disant « Comment je peux faire pour qu'il n'y ait pas de vote contre ?» Pour donner une valeur, j'allais dire, de joyau suprême à ce texte-là. Alors, il a trouvé l'astuce de mettre le mot « universel ». Comme ça, les gens qui étaient, ben, en particulier l'URSS, a accepté de s'abstenir, alors que, avec « international », elle aurait voté contre. Hein. À l'époque, il n'y avait pas l'Afrique du Sud. Ça arrangeait bien les choses. L'Afrique du Sud, elle n'a jamais signé jusqu'à la période Mandela, bien évidemment. Hein. Voilà l'universalisme. Et quand on regarde la liste des gens qui étaient pour, bah, c'était quand même des pays occidentaux. Il faut dire crûment les choses. Donc l'universalisme était très occidental. Et il n'était pas du tout représentatif, même dans le panel qu'il y avait à l'époque. Donc maintenant, évidemment, on se le met autour du ventre en disant on est universel et on est très bien. Hein,
mais malgré mais tout, ça a toujours été contesté. Hein.
Comme disait l'ambassadrice du temps de Reagan, l'ambassadrice des États-Unis, parce que je rappelle que un pays qui ne respecte pas la déclaration universelle, il est bien connu, c'est les États-Unis. Hein. Là, il est mauvais dans le classement, hein, c'est clair. Hein. Eh bien, il disait, ah ben oui, ça c'est comme la lettre au Père Noël. Hein. C'est une déclaration de bonnes intentions. Mais ça vaut pas tripette. C'est facile à dire dans une assemblée.
Quand on écrit au Père Noël, ça répond. Hein? Quand on écrit au Père Noël, ça répond.
Ben là, oui.
Il y a un truc pour analyser les questions qu'on pose au Père Noël.
Voilà, ben j'ai fait mon petit couplet d'historien là pour remettre un petit peu les trucs.
Mais c'est occidental l'universalité parce qu'en fait, dans l'Occident, en fait, ça vient quand même du christianisme.
Oui.
Les valeurs,
c'est les lumières. Enfin, c'est l'héritage des lumières.
Oui, c'est les valeurs qui étaient déjà dans la religion.
On vous rappelle quand même que les deux grands philosophes des Lumières, c'est Rousseau et Kant, et tous les deux, à leur façon, restent chrétiens.
Oui.
Tous les autres, c'est pas des grands philosophes. Hein. Les deux plus grands, Rousseau et Kant...
Alors Diderot n'est pas maintenant.
C'est athée, et puis... Quand
je m'amène jusqu'au
cosmopolitisme.
Oui. Moi, je ne suis pas sûr. Je veux dire, bon, j'ai lu, là, il n'y a pas si longtemps que ça, une documentation sur l'islam. L'islam, à un certain moment, était très universaliste. Hein.
Pas du tout.
À un certain moment.
On s'est toujours servi de Dieu.
Oui, mais avec Robès, toutes les religions sont servies
de Dieu.
L'islam classique de son
époque. Non, mais dans la religion chrétienne, il n'y a pas de juridisme lié à la religion. Non, il n'y a pas un tribunal. Il y avait un tribunal pour les clercs. Quand on excommuniait quelqu'un, après on donnait à la justice civile. Alors que dans l'islam, c'est les religieux qui font du juridisme.
Dans les colonisations, que ça marche pas comme ça.
Oui, parce que c'est la justice.
Je suis pas certaine.
Ah oui, c'est
la groupuscule. Il y a une tendance. Il y a des endroits qui sont plus en danger que chez nous.
Oui,
ça ne veut pas dire que chez nous, il ne faut pas faire quelque chose.
Ah, oui. Non, mais lui, il parle simplement de son expérience de défenseur des droits en France.
Oui, oui, oui.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à plusieurs reprises, il parle d'impératif moral. Quoi.
Ouais.
Oui, voilà. Ça m'a marqué.
Ah ben non, mais là, il a viré sa... pour dire crûment les choses, il a viré sa cutie par rapport à son parcours précédent. Hein.
Il a vu sans doute beaucoup de choses qu'il n'avait pas vu
auparavant.
Ça l'a converti.
Ah ben moi je suis tombée des nues aussi, parce que spontanément je n'avais pas pris dans une librairie.
Là on revient à la démocratie. Là. Aujourd'hui on a une multiplication de d'institutions indépendantes. On est cerné par des trucs indépendants. Alors, indépendant de quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire indépendant du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement ne peut pas le machin. Mais à force d'avoir que des gens indépendants qui sont tout autour, qui sont en apesanteur complètement du point de vue juridique, là aussi, au niveau des libertés, je trouve que ça finit par...
on arrive à l'absurde.
Ça peut arriver à l'absurde.
Il y a la grande ambiguïté. On dit l'état de droit, c'est ce qui nous protège. Bon, mais si on a une grande évolution de notre société, c'est qu'on est devenu extrêmement formaliste sur plein de sujets. Bon, moi, vu mon âge, je me souviens d'une société où j'avais l'impression qu'on était un peu à la bonne franquette. Et on ne vous faisait pas cocher des cases sur tous les sujets. sur tous les sujets, en non, disant si vous êtes binaire. Pas, si vous êtes pas dans le cas 6 bis, etc. Bah ça va pas repasser la prochaine
c'est,
fois.
C'est ce côté bon. Binaire qui est pénible.
Moi, je me souviens d'une enfance ou d'une adolescence où je sais pas si on avait dépassé les 60 km/h et on avait un PV, c'était pas très grave, on allait le faire sauter, on allait chez son député et puis on vous trouvait un arrangement. Maintenant, il n'y a plus d'arrangement, il n'y a rien. Le droit crée en principe une garantie. Le droit crée une garantie. Mais trop de droits grillent les garanties. Trop de droits grillent les garanties.
Moi, je le dis d'une façon plus comique. Je dis le droit, c'est la base de notre société, mais qu'est-ce qu'on fait quand le droit est tordu? Parce que le droit, il est mal fait.
Il suffit de voir l'évolution d'un acte notarié pour faire une vente. Il y a 35 ans, on avait 8 pages. Maintenant, il y en a 200 que personne ne comprend. On a tout garanti. Les termites, le radon, tout ce qui peut arriver avec des experts qui vous coûtent très cher et que personne ne lit en définitive. Bon, le notaire dit oh bah, écoutez, on passe, hein, vous connaissez. C'est dans l'acte.
Expérience vécue.
C'est dans l'acte, vous signez, vous êtes garanti contre tout, mais est-ce que vous êtes vraiment mieux garanti qu'avant? J'en suis pas sûr. Vous connaissez moins bien vos droits maintenant avec toutes ces garanties que nos grands-parents paysans ne connaissaient leurs droits. Et ils savaient bien où était la limite du champ. Il n'y avait pas besoin d'experts pour ça. Maintenant, il y a besoin d'experts.
Voilà. Je pense que maintenant, nous tous ensemble, on n'aurait pas le certificat d'études de nos ancêtres. Oui, là, c'était pour revenir à l'affection de Yves, là. Sur l'interdépendance dans le cadre de la gouvernance. Et en fait, c'est faire appel à un moment donné à des partenaires extérieurs, à ce qui sont nos représentants, entre guillemets. Alors, il existe des groupes de réflexion, je ne sais plus qui c'est qui disait là, tu en disais au monde international, mais même en France. Et moi, c'est par rapport à ce qui pourrait être des droits ou même des façons, des gouvernances. C'est que j'ai l'impression que ces groupes-là existent, et il en existe, moi je connais, je participe à un en particulier, là, mais ça ne touche pas les gouvernants actuels ou les futurs gouvernants. J'ai l'impression que dans nos partis politiques, il n'y a plus ces réflexions-là, qui étaient peut-être autrefois à l'intérieur des partis politiques.
Ça fait 20 ans que les partis politiques ne bossent plus. Ils bossent que pour les campagnes électorales.
Et du coup, si et comme les groupes de réflexion sont des groupes un peu, disons, larges, souvent, ce n'est pas forcément spécifique de tel parti d'extrême droite ou de tel parti de centre droit, je ne sais pas, et je trouve qu'il y a un manque et on appauvrit notre démocratie par des gens qui n'ont pas de capacité à nous offrir, enfin, à présenter quelque chose.
On va prendre la collection de tout ce qu'on a fait depuis 10 ans. Là, il y a du matériau pour dire tout ça. De dire que les politiques sont incompétents, c'est une vérité de café du commerce. Monsieur Machin se présente à la députation. Moi, j'aimerais bien que dans une démocratie, on lui dise, on passe un examen, puis on vous dit, quel est votre CV, puis qu'est-ce que vous savez faire, monsieur. On ne demande jamais ça.
Il y a une machine qui fait ça à la gare. C'est vrai.
Mais pareil pour les juges. On juge à l'étiquette politique, à la tête du client et tout. Moi, je dirais, dans une démocratie, mais à ma sauce à moi, je ferais passer un examen d'aptitude aux gens qui se présentent aux élections législatives.
Voilà. c'est juste une je ne sais plus le nom de celui qui nous a parlé, de chef d'orchestre qui nous venait de
oui,
Belgique.
Westman. Daniel Westman.
Daniel Westman. Et quand il a parlé justement de cette direction où chaque instrument, les notes sont comme ça, mais le chef d'orchestre, c'est la même chose comme ça. Et en fait, la société, c'est, on est tous différents, on a tous un instrument différent. Hein, mais j'ai énormément aimé les images qu'il a prises et de ce qu'il décrivait.
Mais lui, il est très bon. C'est pour ça qu'on l'aime.
C'est accepter de différents, chacun sa musique, son tempo, mais en même temps, de jouer ensemble une même musique. La société...
Il faut trouver l'équilibre entre les droits individuels et les droits de la société, collectif.
Donc les dirigeants, c'est des bons...
C'est ça qui n'est pas facile.
Ensemble.
Il faut vers l'individuel, tout bon.
On est dans une même musique, ensemble.
Tout bon, il n'y va pas, non.
Il propose rien, il dit qu'il a changé, mais c'est vrai que il a vécu ça pendant 6 ans, 7 ans, etc. Et...
Ça l'a fait changer.
Ça l'a fait changer.
Il l'a dit.
Non,
aussi,
mais il a pris son job à cœur, quoi. Donc il a dit, effectivement, la vision que j'en ai maintenant, elle est différente de celle que je me faisais avant. C'est tout. Hein. Mais tout le monde est dans cette situation-là. Tant qu'on n'est pas trempé dans le bain, on ne se rend pas compte. Les jugements d'un porte-pièce, c'est toujours facile.
Moi, il y a une chose qui m'inquiète. C'est quand j'entends dire que les hommes politiques sont incompétents, parce que, je veux dire, en définitive, ça laisse penser que, bon, bah, tous ceux qui ont exercé jusqu'à présent, bon, bah, ils sont incompétents, donc il faut laisser la place à ceux qui n'ont pas exercé.
Non.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Non, quand je dis...
Et c'est-à-dire que, bon, voilà, il faut laisser l'Europe à des gens qui vont essayer de faire en sorte qu'elle soit complètement illémocratique, qu'il ne soit plus démocratique. Voilà.
Ils n'ont pas toujours été incompétents.
Comment ?
Ils n'ont pas toujours été incompétents.
Ni tout, mais c'est ça. En le disant maintenant, bon, ben, laissez la place à ceux qui n'ont jamais existé. Vous verrez que ça marchera beaucoup mieux.
Peut-être aussi qu'ils n'ont plus le pouvoir. Voilà. C'est parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir, il est, vous le savez bien, à Bruxelles.
Non, c'est faux.
Qu'est-ce qui fait qu'on perd les droits ? C'est parce que c'est le pouvoir, les pouvoirs des sondages et des finances, qui les lobbies et compagnie. Les compétences, par exemple. Les compétences, toutes les centres de réflexion. Jean Jaurès et compagnie, ils sont vachement compétents. Ils ont tout ce qu'il faut. Par contre, ils n'ont pas les moyens. Et nos politiques, contrairement à ce que tu disais, ils ont des compétences, mais ils n'ont pas de moyens. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les élections se jouent de plus en plus avec la puissance de l'argent. Qui domine et qui prive.
Oui, mais c'est vrai.
Par les médias et tout le reste, qui prive la capacité.
Tu as raison. Ce que je veux dire dans la compétence, c'est l'hyper. Représentation des gens qui ont fait des études, soit juridiques, soit de Sciences Po, soit d'École nationale d'administration, dans le personnel politique. C'est quand même pas un spectre large de compétences. Voilà. Disons, dans les gouvernements, en moyenne, et ça c'est Jankovici qui me l'a dit, il y a un ministre et demi qui a une formation de caractère scientifique dans des gouvernements qui font 40 ministres. Voilà. Et après, on va...
Ou même avoir,
chez les députés une compétence comme il y en avait autrefois, simplement d'avoir été dans des syndicats, d'avoir...
Ben oui, oui, ou d'être dans des entreprises, patron de... Oui, oui, oui. Ou artisan, voilà, oui, 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 oui.
C'est cette heure bon là, les amis.
Oui, bon, allez. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, allez.